l'origine de l'émeraude. On a perdu, on a oublié comment on mange des spaghettis. Bienvenue à tous, bienvenue aussi au pasteur Egbert, qui vient de Liège. Et il est le président de la Chambre francophone des églises de Belgique. Et c'est un honneur de l'avoir parmi nous. Pourquoi une conférence sur l'écologie, sur écolo, sur le climat, et en plus dans une église évangélique? Au début, je me posais la question. J'ai entendu l'orateur, et je me suis dit, c'est une conférence très importante et que tous les chrétiens, tous les pasteurs devraient suivre. On va vous reposer la question après la conférence. Aujourd'hui, peut-être maintenant, à ce moment, on ne sait pas répondre, mais par après, on va pouvoir peut-être répondre, j'espère. C'est un thème d'actualité. Hier, vous savez que c'était la grève mondiale pour le climat. Et cerise sur le gâteau, demain, ça sera la journée sans voiture. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre, c'est l'automne. C'est fini l'été. Et nous allons parler justement de cette conférence d'Agilie sur le climat. Plus actuel que ça, nous avons les deux pieds dans l'actualité. Entre hier et aujourd'hui. Lorsqu'on a programmé cette soirée, depuis le mois de mai, je ne savais pas. Et ça se confirme. Mais non seulement cela, hier soir j'ai eu confirmation parce que j'ai reçu un email du journal Le Soir. Je crois que tous ceux qui ont un abonnement au journal reçoivent cette info. Une information personnelle hier soir, et qui me conforte dans ce choix et dans cette conférence d'aujourd'hui. Et un exemple royal également. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai pensé de faire cette conférence ici ce soir. Voilà l'email que j'ai reçu hier soir. Bonjour, bonsoir monsieur, voilà, c'est moi. J'ai reçu hier soir à 19h31. Quelques 15 000 personnes ont défilé vendredi, donc c'était hier le jour de la journée, dans les rues de Bruxelles, dans le cadre de la troisième grève mondiale pour le climat. Les manifestants ont une nouvelle fois réclamé une politique climatique courageuse. Et continuait l'email en disant que les jeunes demande aux anciens ou aux plus âgés de réfléchir. Voilà l'image. Je vais vous demander de retenir cette image. Vous voyez ce monsieur qui manifeste hier. Il y a la terre qui brûle, help me, aidez-moi. Et vous avez écrit qu'il faut redevenir vegan, faut être végétarien. Et ces habits de sorcier. C'est une image qui est aujourd'hui dans le journal Le Soir. Et je vais vous demander, lorsque vous allez entendre le conférencier, de vous rappeler de cette image. Le roi Philippe nous montre l'exemple. Il est préoccupé d'écologie et cette année, il a choisi une nouvelle voiture, une Mercedes S500 hybride, qui a coûté à l'origine sortie d'usine 110 000 euros, et fin avril, il l'a acquise, voilà, et elle est devenue la voiture numéro 1 en Belgique immatriculée avec le numéro 1. Et dans un souci d'écologie, elle a coûté 500 000 euros que vous avez payé et que je paye. Parce que le roi est très préoccupé d'écologie. Mais à côté de ça, elle est très économe pour les vacances, il fait sa vacances. Toute sa famille. Donc, d'une part, il participe aux journées sans voiture. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder quelques thèmes qui sont d'actualité. Vous allez voir, je ne sais pas si c'est assez grand, le climat, je ne vais pas tout lire, hein, le rapport avec le GIEC, la COP21, réchauffement climatique, le CO2, l'énergie renouvelable. Je ne connais pas toute cette matière, mais l'orateur les connaît. Et on va pas entendre parler de toutes ces notions, toutes ces informations, ce qui s'est passé à Londres, ce qui s'est passé à Paris. Il va vous parler du carbone, de la peur, de la démographie, du Kyoto, de l'environnement. On va parler de tout ça, de la science et surtout de la pseudo-science. Il va vous parler de tout ça, du développement durable, du sommet de la Terre, la grève mondiale, la déforestation, les animaux, l'Amazonie, les nouveaux pays émergents, la peur, Greta Thunberg. La démographie, la globalisation, le rassemblement de base, l'altermondialisme environnemental, les hippies qui ont découvert la nature, le paganisme, la création, l'histoire du judaïsme, du christianisme, la Bible. L'orateur, je vous rassure, même s'il nous parle de science, c'est un chrétien. Et il va également, et ça sera peut-être la conclusion, ici, c'est la conclusion de toute la. Il faudra choisir entre l'un ou l'autre. Entre la terre, l'adoration de la terre, ou bien d'adorer le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Voilà, c'est l'orateur de ce soir. Il s'appelle Samuel Fofari. C'est un géopoliticien, il fait des conférences un peu partout, de haut niveau. Il a un CV impressionnant. Il est docteur en sciences appliquées et ingénieur. Il est haut fonctionnaire à la Commission européenne. Non, je crois qu'il est pensionné. Il a exercé pendant 36 ans. Il est enseignant de la géopolitique de l'énergie à l'ULB. Il est conférencier écrivain. Il est souvent invité sur les plateaux télévisés. Il est parfois aussi très contesté. Puis président de la Société européenne des ingénieurs et industriels. Il est chrétien engagé. Last but not least, il est le président de l'Association des Églises protestantes évangéliques de Belgique. Voilà, donc il a écrit un livre que vous pouvez acquérir. Je l'ai ici, moi je l'ai, Chrétien Colo. Je crois qu'aujourd'hui il est bradé à 15 €. Tout ce qu'il va raconter est tout inscrit ici dans ce livre. Et voilà, sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Samuel Fofa.
Merci Eliseo, et merci d'être là. J'ai le plaisir de voir beaucoup de visages connus. Je crois que je connais presque tout le monde. Merci d'être là. Eliseo a oublié de dire qu'on se connaît depuis qu'on est enfant. Nos parents, son papa, mon papa, sont venus travailler dans les charbonnages de Charleroi ben, il y a presque 70 ans de ça. Presque 70 ans. Et donc on était dans les églises italiennes, et puis on s'est revus en 1970, on a fait une année d'études ensemble. On a fait ce qu'on appelait la déprime, pas parce qu'on était déprimés, hein, mais ça s'appelait la déprime, parce que c'est une spéciale maths qu'on a fait à l'UT, à Charleroi. Tu n'as pas terminé? Ah, tu as commencé? Oui, bon. Je me souvenais que tu étais avec moi pour faire beaucoup de maths. Et puis je me suis dit, après, pendant l'année, mais je ne savais pas quand, il a bifurqué vers la théologie. Tu as bien fait. Et puis on se revoit maintenant régulièrement, de temps en temps, dans des réunions à caractère plutôt chrétien via l'aumônerie. Anne, tu peux lancer le PowerPoint? Rassurez-vous, je ne peux pas vous parler de tout ce qu'il a dit. Il a pris différents points dans le livre. Mais voilà, le livre c'est une chose, parler c'est autre chose. Ça prend beaucoup de travail d'écrire. Parler c'est plus facile. Et donc je ne vais pas vous parler de tout cela, mais je vais essayer de concentrer pour que vous reteniez l'essentiel de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La première chose que je dois vous dire, c'est que nous devons éviter de polluer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un jour, quand j'ai fait une conférence, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais vous êtes pour la pollution !» J'ai été tellement surpris. parce que j'ai fait une grosse partie de ma carrière professionnelle pour lutter contre la pollution. Et puis, vous dites, bah, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. Donc, je vous le dis des vues, il ne faut pas polluer. Qu'est-ce que c'est la pollution? Ben, ce sont les émissions de gaz nocifs qui sortent des cheminées, du pot d'échappement, les oxydes d'azote ou les oxydes de soufre, la suie, les particules qui sortent du tube de diesel, les pots d'échappement. Ça, c'est la pollution qui est mauvaise pour l'environnement, mauvaise pour la santé, mauvaise pour les enfants. Il faut combattre tout cela. D'accord? Ne venez pas dire que je ne l'ai pas dit. J'ai fait une conférence similaire dans une église à Anderlecht. Et il y avait dans la salle un ingénieur qui m'a reproché à la fin de la conférence de ne l'avoir dit qu'une fois. Tu es pour la pollution. J'ai dit, mais je l'ai dit en commençant. Oui, mais tu l'as dit une fois. Voilà, donc vous m'excuserez, mais je me répète, je suis pour éviter la pollution. Et pourquoi y a-t-il un conflit? Parce que ce qui intéresse actuellement tous ces jeunes qui manifestent et les politiciens, ils vous parlent du CO2. Et le CO2, ce n'est pas un polluant. Le CO2, c'est ce qui sort de nos poumons. On a appris ça à l'école, et puis on oublie. Le cycle de l'oxygène, c'est que nous respirons l'oxygène qui arrive en l'air, il passe dans le sang, il se charge de toute la pollution qu'il y a dans notre corps, et il ressort par notre bouche du CO2. Donc le CO2 n'est pas un polluant, c'est nous qui le produisons. C'est banal, ce que je vous dis, c'est tellement banal que je suis gêné de dire des choses pareilles. Pourtant, c'est simple, les gens disent « Oh, le CO2, c'est mauvais !» Non, le CO2, c'est la vie. Je vous signale aussi que je pense être écolo. Vous voyez avec ces photos dans notre jardin, ben oui, on essaye de faire des cultures bio, non pas parce que c'est la mode, mais parce que voilà, on aime bien produire nos légumes. On fait du compost, comme vous le voyez là, il y a le compost avec la récupération de l'eau de pluie. Ben, on essaye de faire les choses sensées. Je crois qu'il y a beaucoup de gens écolos qui vivent dans des appartements qui ne savent même pas ce que c'est un mètre carré de terre pour la cultiver. Donc je me permets de dire, bah, il ferait mieux de réfléchir à deux fois avant de critiquer. N'ayez pas peur, il n'y a pas, des choses compliquées. Hein. C'est simplement pour ceux qui veulent comprendre dans quelle farce on est en train de jouer. Tout ça a commencé, il l'a dit, avec les hippies. Ça a commencé aux États-Unis, dans les années 60-70. La génération de l'après-guerre, ben, on avait un peu marre de tout ce que les parents avaient vécu, et ils ont basculé vers les hippies. Les plus jeunes d'entre nous, c'était une mode, une espèce de révolution par rapport à ce que les parents avaient vécu. Il fallait marcher pieds nus pour sentir la terre, s'habiller avec des vêtements comme les Apaches. Voilà, c'était un retour, un abandon du christianisme pour adopter les techniques des Indiens. Et la photo que Élisée vous a montrée, ben c'est ça, il faut revenir à ce que les Indiens ont fait. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais le pape va, au mois d'octobre, faire un synode sur les Indiens de l'Amazonie, en disant, nous devons les copier. Parce que ce qu'on a fait, c'est pas bien. Tandis que eux sont respectent la nature. Donc voilà, le message du Vatican au mois d'octobre va être copions les Indiens d'Amazonie, qui vivent nus, qui mangent des vers, parce que nous, on détruit la terre. Et puis, tout ça est arrivé, c'était du côté des États-Unis. En Europe, c'est un autre mécanisme qui a eu lieu. Vous savez qu'on a vécu pendant 70 ans en Europe avec un communisme virulent en Union soviétique. Ce mécanisme a formaté des générations entières. Et puis, il y a eu un échec du communisme évident. Il suffit de voir ce qui s'est passé en URSS, comme ils ont vite balayé tout cela pour copier notre système. Mais toutes les générations qui ont cru, honnêtement, sincèrement, avec leur cœur, à la bonté du communisme, c'est-à-dire tous égaux, on est fraternels, etc., ils ne parviennent pas à abandonner cela. C'était trop beau, ce rêve de l'égalité. Et ça reste dans la tête des gens. Et c'est ce qui se passe encore en Europe. On n'emploie plus le mot communisme, mais c'est là, toute cette théorie marxiste est toujours présente. Et tout ça a conflué vers la situation dans laquelle on est. D'un côté, le paganisme américain est arrivé en Europe, et le socialisme ou communisme européen est allé vers les États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est encore ça, c'est vraiment un développement énorme de la pensée communiste. Ça peut sembler bizarre, mais ça est en train de se passer. Et tout ça a créé un maelstrom, un melting pot, dans lequel nous nous trouvons soit des États-Unis, soit nous. Ailleurs, c'est fort différent. Ailleurs, c'est quand même très différent. Peut-être qu'on aura le temps d'en dire quelques mots. Mais les États-Unis et nous, je veux dire l'Union européenne, nous sommes dans le même bateau. Pas la Russie. La Russie ne veut rien savoir de tout ça. J'ai pas le temps de vous en parler. Mais il se moque complètement de toutes ces histoires. Et tout ça a créé cette nouvelle métaphore que j'ai mis là, avec le recyclage des idées communistes, comme je vous l'ai expliqué, et cerise sur le gâteau, qui est derrière tout cela maintenant? La grande finance. Les grandes banques. C'est ça qui est le plus dégoûtant dans toute cette histoire. C'est que des gens sont là pour dire on va faire l'égalité des gens, le socialisme en quelque sorte, grâce à, vous allez voir avec India, et derrière ça qui est là, la grande finance. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train de dire sur le climat coûte énormément, des centaines de milliards. Qui manipule des centaines de milliards?
Les banques.
Les banques. Et donc il y a maintenant l'hypocrisie totale où les banques poussent les écolos et les socialistes. Et les socialistes ne se rendent pas compte. Socialiste dans le sens de communisme, hein, mais je ne parle pas de Magnette ou de Groupo, hein, c'est pas de ça que je parle.
Le PPD.
C'est vraiment une. On est toutes tombées dans le piège. Alors, démonstration progressive de tout ce que je viens de dire. Alice, tu peux lancer la vidéo. Il y a en 2017, en février 2017, j'étais pour mon travail dans le Lot. Pour faire des conférences à des agriculteurs. Et j'ai rencontré un agriculteur qui produit des fraises. Vous voyez là les fraisiers, avec des serres énormes. Tout ça est mécanisé, hein, tout ça monte et descend pour que les gens ne se baissent pas pour ne pas abîmer le dos, pour pouvoir planter des fraises et qu'on les remonte. C'est impressionnant. C'est une usine. Et ce monsieur, je le savais. Et quand il me l'a dit, je dis ouf, je vais vite le filmer parce que c'est quelque chose que l'on connaît dans notre métier. On injecte du gaz brûlé dans les serres pour avoir plus de CO2. Dans toutes les serres industrielles, on brûle du gaz naturel, et on envoie le pot d'échappement dans la serre pour augmenter la teneur en CO2 pour avoir des plus gros fruits. Vous voyez que le CO2 n'est pas un polluant. Hein. Et donc ce monsieur-là, moi je le savais, et je lui dis, vous pouvez réexpliquer tout ça? Et il est en train d'expliquer ce qui se passe. Malheureusement, ma vidéo a démarré un peu trop tard, mais vous allez l'entendre. Dans l'atmosphère ici, partout dans le monde, il y a environ 400 ppm de CO2, 0,04% de CO2. Et dans les serres, on multiplie par 2 ou 3 cette teneur. En injectant des gaz d'échappement, tout simplement. C'est des gaz propres, puisque c'est du méthane, ça ne brûle pas, vous cuisinez avec du méthane à la maison, c'est pas un polluant, il ne produit pas de particules comme on a vu tout à l'heure, et ils injectent. Donc le pot d'échappement de la chaudière va dans la serre, et la vidéo démarre avec ça.
Sans PPM, et on essaye d'en mettre 800.
Bien sûr, quand les ouvrances sont ouvertes, on a plus de mal à maintenir les muscles.
Donc le CO2 est nécessaire pour la croissance des plantes.
Oui, s'il n'y a pas de CO2, ça ne pousse pas. Ça pousse moins vite et les fruits sont moins fermes.
Et le CO2, vous le produisez comment?
On le produit avec la chaudière qu'on avait tout à l'heure, là, qui nous fournit de l'eau chaude pour la nuit, qu'on stocke, et toutes les récupérations de cheminées sont insufflées dans les serres.
Et qu'est-ce que vous brûlez?
On brûle du gaz de mine, uniquement du gaz de mine. Bien sûr, avec une chaudière.
C'est du gaz naturel.
Une chaudière biomasse, on ne peut pas faire de CO2 par là.
Voilà. Donc vous voyez, le CO2 est nécessaire pour avoir une meilleure agriculture. La preuve, c'est que depuis qu'on brûle des énergies, que le CO2 augmente dans l'air, il y a de plus en plus de verdure dans le monde. La forêt augmente au rythme d'une surface équivalente à un terrain de football toutes les minutes en Europe. Je répète. La forêt est en train d'augmenter dans le monde et en Europe aussi. On vous dit qu'il y a de plus en moins de forêts qu'on détruit. Carabistouille ! C'est pas vrai ! Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que le climat change ?
Oui.
Dans toutes les langues ? Oui, 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 le climat change. Le climat a toujours changé. Voici quelques photos. La Tamise gelée vers 1600. Depuis lors, la pluie n'était jamais gelée.
Si, si.
Napoléon qui a fait une déroute mémorable en allant à Moscou, c'était un hiver hyper rigoureux. C'est pour ça qu'il n'a pas su arriver à Moscou. Et puis encore la Tamise, cette fois-ci, gelée en 1814. On n'a plus vu la Tamise gelée. Pourquoi ? Parce que le climat change tout le temps et fluctue. On va passer ça, le texte, on voyait qu'on parle de l'évêque de Genève, en 1644. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voici la vallée du Chamonix. Et en 1644, le glacier est arrivé ici, aux portes de Chamonix. Les gens ont eu peur. Ils ont fait une procession avec l'évêque. Ils ont fait une procession dans les environs du glacier, en priant, je ne sais pas qui, pour que le glacier arrête. Et le glacier a arrêté. Il a arrêté, je ne sais pas si c'est à cause de la procession. Hein. Vous pensez ce que vous voulez. Le glacier a arrêté. En 1821, il était là. En 1852, il était là. En 1895, il était là. Et maintenant, il est quelque part là-bas. Et on n'arrête pas de vous dire le glacier recule, le glacier recule. Ben oui, depuis 1640, il recule. On ne roulait pas en voiture à l'époque. Hein. On ne brûlait pas du charbon à l'époque. Et tout d'un coup, maintenant, c'est à cause de nous qui utilisons de l'énergie que tout cela recule. Est-ce que l'Antarctique est en train de fondre? C'est comme vous le voyez, il n'y a rien qui l'indique. Ce sont des graphiques que je vais. On le voit tout de même, non. Vous voyez que la température, ben elle aussi, là, entre moins 0,5 et plus 0,5, la température, elle aussi, tout le temps. C'est comme ça, la nature a des hauts et des bas. Il n'y a rien d'anormal à cela. Et ça remonte à 2000 ans. Hein. On est là maintenant, c'est toujours en centre terre. Là, on est 2000 ans. Que se passe-t-il derrière tout ça? Il y a beaucoup de mathématiques, des modèles, des ordinateurs. Plusieurs d'entre vous, ici dans la salle, ont travaillé dans ce domaine et ils savent ce que c'est. Je vous présente la page qui parle, explique tout ça dans le rapport du GIEC. Et voici ce qu'il dit. La température de la surface moyenne observée a montré une augmentation très petite au cours de ces dernières années. Et, on le voit là-bas, depuis 15 ans, vous voyez, il y a eu une stabilisation de la température. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Stabilisation de la température depuis 15 ans. Un peu plus loin dans ce rapport, à la page 774, dans le premier rapport du GIEC, voici ce qu'il est écrit. En résumé, Une stratégie doit être, on doit vérifier si la stratégie est censée, possible. En matière de modélisation et de recherche du climat, nous devons reconnaître que nous avons devant nous à traiter un problème d'un système chaotique non linéaire couplé. Ce sont des termes mathématiques, hein. Ce sont des équations non linéaires, beaucoup d'équations non linéaires qui donnent des résultats qu'on appelle en mathématiques le chaos. Et par conséquent, la prédiction du futur du climat à long terme est impossible. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Le GIEC dit qu'il est impossible de prévoir le climat à long terme. Or, on n'arrête pas de vous dire qu'en 2100, il y aura 2 degrés, 3 degrés, 7 degrés maintenant. Toutes les semaines, il y a de nouveaux chiffres qui sortent. C'est impossible.
Tu peux le dire, c'est quoi le GIEC ?
Oui. Je ne sais pas si c'est ici ou... Vous voyez que je l'ai mis, je ne sais plus s'il y a une... Non, moi ici, c'est la conférence que je donne lundi, que j'aurais dit que c'est le GIEC. Alors, vous entendez toujours parler du GIEC. Beaucoup de gens pensent que le I de GIEC veut dire international. C'est un organisme international. C'est pas international. Le GIEC, c'est Groupement Intergouvernemental d'Études du Climat. Qu'est-ce que ça veut dire intergouvernemental ? Que ce sont les gouvernements qui gèrent le GIEC. Et on n'arrête pas de vous parler de science. C'est un mensonge. Le GIEC n'est pas un organisme scientifique. C'est un peu plus compliqué. Le GIEC est formé de scientifiques qui étudient la littérature scientifique, ce qu'on appelle les papiers scientifiques. Et ils analysent des milliers et des milliers de documents. Et ils font un résumé qui fait environ 1200, 1400 pages. Et puis, à chaque étape, les gouvernements réduisent ce texte. Je sais bien, j'ai participé à ça. Et on réduit le texte, et à la fin, il reste le rapport du GIEC, qui fait une vingtaine de pages. Réécrit par des fonctionnaires, pas par des scientifiques. Ce résumé, c'est ce qu'on appelle le résumé pour les décideurs, est accompagné d'un résumé qui fait une page et demie. Et les journalistes lisent cette page et demie et vous font un titre dans le journal de 2 lignes. À la base, bien sûr qu'il y avait de la science. Mais quand on arrive chez vous, ça ne produit plus de la science. C'est passé dans la modélisation des gouvernements. Et donc là, c'est un grand piège. On ne devrait pas dire la science dit. Le rapport du GIEC, ce n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est les milliers de documents que les scientifiques lisent dans la première étape. Donc, vous voyez, c'est impossible de mesurer le climat. Je suppose que vous connaissez le personnage de gauche. Celui du milieu, vous voyez qui est ? Le prince de Monaco. Oui, d'accord ? Alors, le monsieur de droite...
Charles Aznavour.
En effet, le monsieur de droite, c'est l'équivalent du monsieur de gauche en France. Donc, c'est le délégué français au GIEC. La photo a été prise, si je ne me trompe, à Doha en 2012. C'est juste pour vous illustrer qui est-ce. Cet été, à cause de la vague de chaleur, pas la canicule, il n'y a pas eu de canicule cette année-ci. Je répète, cette année-ci, il n'y a pas eu de canicule. Il y a eu des vagues de chaleur, c'est pas la même chose. À cause de la vague de chaleur, tout de suite, les journalistes ont été interviewés sur un monsieur qui s'appelle Jean Jouzet, que je vais rencontrer une seule fois dans ma vie. Et il a fait peur aux gens en disant que l'émission est là, vous pouvez aller écouter, j'ai vu le lien, vous pouvez aller écouter l'émission sur France Info. Et il a dit oui, mais ça va continuer, ces vagues vont continuer, et on va monter à 3-4 degrés. Évidemment, tout le monde a parlé de ça. Quand moi j'ai vu ça, j'étais mal à l'aise, j'ai contacté un vrai scientifique du climat. Moi je ne suis pas un scientifique du climat, je suis énergéticien. Et il m'a dit, oui, mais il manipule l'opinion publique. Va voir le rapport du GIEC, à la figure que je vous indique ici, et vous voyez les températures qui peuvent augmenter, d'après le GIEC, hein, entre 1 et 2 degrés, et lui parlait de 4 degrés. Mais regardez quelle est la probabilité d'avoir 3 degrés. 3 degrés ici. La probabilité, c'est 0,1%. Je répète. Lui parlait de 4 degrés, alors qu'il n'y a pas, d'après le GIEC, possibilité d'arriver à 4 degrés d'augmentation. Lui, il a dit, facile à dire de manipuler l'opinion publique, 3-4 degrés. Il y a une différence entre 3 et 4. Dans ce domaine-là. En disant 3 et 4 degrés, il a dit 3, et la probabilité d'avoir 3 degrés d'augmentation est de 0,1%. Évidemment, les journalistes ne connaissent pas tout ça. Et on met les titres dans les journaux, et voilà, tout le monde croit qu'on va bouillir l'année prochaine ou dans 2 ans. Et puis, le pape est venu donner un coup de main. Il est venu donner un coup de main parce que ça le fait bien, et il ne faut pas oublier que le Vatican, c'est un État, et donc il fait de la politique aussi. Il est membre des Nations Unies. Et il a poussé beaucoup, et maintenant il pousse de plus en plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai dit maintenant, préparez vos oreilles, hein, vous allez être matraqués par ce qui se passe, parce qu'ils vont parler beaucoup d'Amazonie. Et puis, les vedettes du cinéma se mettent aussi. Vous tapez DiCaprio, conférence de Paris, et vous avez cette image, certainement. Et qu'est-ce qui est écrit ici? Bloomberg. Vous savez, c'est quoi Bloomberg? Une grosse entreprise financière. La grosse finance américaine. Je vous ai dit que derrière tout ça, il y a beaucoup d'argent. Et évidemment, M. DiCaprio arrive avec son jet privé. Combien d'argent il a reçu par Bloomberg, j'ai aucune idée. Mais c'est facile de venir propager cette idée là-bas, et tout le monde croira, ah, ben oui, c'est fantastique, même les acteurs de cinéma nous disent qu'on va bouillir. Derrière ça, il y a beaucoup d'argent, je le répète, parce que vous ne comprendrez pas, sinon. Je suis arrivé dans ce domaine du changement climatique en 1994. Pourquoi? Parce qu'en 1992, il y a eu la conférence de Rio. Et en 1992, il y a eu la conférence de Rio qui a lancé le mécanisme avec la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Eh bien, depuis qu'on est en train de dire qu'on va réduire les émissions de CO2, on les a augmentées de 56%. Depuis qu'on n'arrête pas de parler climat, on a augmenté les émissions de 56%. Est-ce que c'est sérieux? Pourquoi ont-ils augmenté les émissions de CO2? Parce qu'il n'y a rien à faire. Ou bien on revient vivre comme vivaient nos parents quand ils sont venus d'Italie. Je n'ai pas le temps de vous montrer ça, mais l'énergie, c'est la vie. Sans énergie, on régresse. J'ai mis un graphique, je vais vous montrer. Voici les émissions, regardez. Ça date de 1965. Depuis 1965, on monte de manière linéaire les émissions de CO2. Vous voyez l'accident ici? Ça, c'est la crise des subprimes. La crise de 2008 qui a frappé tellement l'Europe. S'il y a crise, il n'y a pas de travail. On ne se déplace pas, il n'y a pas d'argent, on ne consomme pas d'énergie, les émissions de CO2 chutent. Si vous faites de la croissance, vous allez en vacances, vous allez au restaurant, vous travaillez, vous prenez le train pour aller travailler, il y a de l'activité économique, les émissions de CO2 augmentent. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de solution. Ou bien on arrête la croissance et on retourne à vivre comme on vivait au 19e siècle, ou bien on accepte les émissions de CO2. Parce que de toute façon, les émissions de CO2 ne changent pas le climat. Voici les émissions de l'Union européenne. Vous voyez que la chute ici, c'est dû à l'absorption des pays communistes, où tout était vieux là-bas, sans équipe, sans rendement. eu beaucoup d'améliorations dans l'efficacité énergétique, puis c'était relativement stable, et on est rentré en crise depuis 2008. Depuis quelques années, ça repart un peu à la hausse. Ça, c'est la Belgique. Si on arrête de vivre en Belgique, ça ne changera rien. Ni en Europe, ni dans le monde. 0,4% des émissions. Vous coupez de 20% des émissions, ce qui était impossible, ben vous tombez à 0,38%. Ça ne change rien. Ce qu'on fait en Belgique est totalement inutile. Quelqu'un m'a dit, oui, mais on va servir d'exemple. Ah oui, les Chinois vont venir acheter notre technologie. Quelle technologie on a développée? Qu'a-t-on développé comme technologie pour lutter contre le climat? Aucune. Ça, c'est l'Allemagne, qui dépense 25 milliards par an pour leur énergie renouvelable. Je ne sais pas si je l'ai mis ici, parce que lundi, je fais une conférence à l'école militaire, et je suis un peu plus loin là-bas, donc excusez-moi si parfois je pense que j'ai mis quelque chose ici ou pas. On vient d'annoncer, Mme Merkel vient d'annoncer il y a deux jours, qu'elle va dépenser 100 milliards pour le climat. Vous avez entendu, hein? 100 milliards pour le climat. Et donc les journalistes, vous voyez, les Allemands, ils vont dépenser 100 milliards pour le climat d'ici 2030. Ils en dépensent 25 par an actuellement pour les renouvelables. Ce qui veut dire qu'en 4 ans, ils vont dépenser tout ce que Mme Merkel vient d'annoncer comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, c'est facile de mentir, hein? Ou plutôt de tromper les gens. Les 100 milliards, c'est rien du tout pour l'Allemagne, puisqu'on dépense 25 par an pour le réolien. Et vous voyez que ça ne change pas grand-chose aux émissions de CO2 de l'Allemagne. Ça, ce sont les États-Unis, avec une chute formidable ici grâce au gaz de schiste, on va rentrer dans les détails. L'Inde, qui est en train de sortir de la misère, il y a 350 millions d'Indiens qui n'ont pas d'électricité. Je répète, les trois quarts de la population européenne en Inde n'a pas d'électricité. Vous pensez qu'ils vont faire se contenter de ne pas avoir d'électricité parce que le GIEC dit que la planète chauffe? Vous êtes assis? La Chine. Quand vous achetez un t-shirt chinois ou un slip chinois, c'est parce que derrière, il y a des Chinois qui travaillent et qui produisent pour le monde entier. Et ils produisent comment? Avec de l'énergie fossile. Du charbon, du gaz, du pétrole. Et vous avez ici le résultat extraordinaire depuis l'ouverture de la Chine au commerce international. Et vous voudriez que la Belgique fasse quelque chose? Et puis il y a toutes sortes de pays dont on ne parle jamais. Je vais en citer quelques-uns. L'Algérie, la Nouvelle-Zélande, pays de l'OCDE. L'Égypte, le Pérou, les Philippines, le Pakistan, Singapour, l'Inde, je viens d'en parler, l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Oman, le Bangladesh, le Qatar et le Vietnam. Et vous voyez l'augmentation des émissions là-bas? Regardez quelle augmentation. Le Vietnam a augmenté ses émissions depuis qu'on dit qu'on doit réduire de 1100%. Vous pensez qu'ils vont arrêter parce que le GIEC dit au monsieur à la télévision belge, on va dire que les enfants ont manifesté, on doit changer notre façon de vivre? Rien ne va changer. En plus, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est un mécanisme vicieux et pernicieux qui veut vous contrôler la façon de vivre. Ce monsieur était membre du GIEC. IPCC en anglais. Je l'ai rencontré, j'ai fait venir à Louvain-la-Neuve il y a quelques années. C'est, vous savez, on critique beaucoup les climato-sceptiques. Hein, tout de suite, c'est le diable, le climato-sceptique. Lui est climato-sceptique, mais tout le monde a peur de dire quoi que ce soit sur cet homme. Parce que c'est un des plus brillants scientifiques dans ce domaine. Il est marié avec une Française. Et il vient passer 6 mois par an à Paris, et donc c'est comme ça que j'ai pu le rencontrer plusieurs fois. Il est professeur au MIT, l'université, une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Et quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, la phrase que je vais vous montrer m'a vraiment secoué. Comme une religion, l'environnementalisme se répand avec la haine pour le monde matériel. Et comme la religion, il exige de ses adhérents la dévotion plutôt que la rigueur intellectuelle. Il ne tolère pas les dissidents. Ceux qui remettent en cause le dogme du malheur sont considérés comme des hérétiques ou les négationnistes du changement climatique, pour utiliser un vocabulaire. On est tombé là-dedans. On est des pestiférés. Moi, je suis un pestiféré parce que j'ose dire des choses comme lui. Surtout qu'on est nombreux à penser comme ça. Mais on n'a pas le droit à la parole. On nous cache, on nous éjecte. Et qu'a-t-il dit en plus, Dick Linson ? Si vous contrôlez le carbone, vous contrôlez la vie. Si vous contrôlez les émissions de CO2, vous contrôlez la vie des gens. Tony Blair avait lancé un projet similaire, avec une carte de banque CO2. Quand vous achetez, vous donnez votre carte pour débiter votre compte, et il avait l'idée de débiter votre crédit CO2. Et l'idée revient maintenant. De manière à contrôler votre vie. Vous ne pouvez pas produire plus de CO2 que le gouvernement vous dira. Parce qu'à la fin, c'est ça qu'on va faire. C'est nous contrôler. À travers des taxes, à travers des restrictions, à travers l'urbanisme. Tout faire pour contrôler notre vie. Tout ça est liberticide. Avec, comme le disait Linzel, une religion, on s'approche du sujet. Tout ça est un apéritif pour qu'on arrive au cœur de notre sujet dans une église. Un autre écologiste français, François-Marie Briand, a écrit « La lutte pour le climat est contraire aux libertés individuelles. » On veut contrôler notre vie à travers lui. On peut contrôler notre vie. C'est un système à la soviétique. On va contrôler nos vies. Sur cette photo à gauche, vous voyez Patrick Moore, un des fondateurs de Greenpeace. Greenpeace a été fondé dans une église évangélique, à Vancouver. C'était des jeunes qui se réunissaient dans l'église, qui ont dit « Ah, ça ne va pas, on pollue de trop, il faut trouver une solution. » C'est comme ça qu'est née Greenpeace, dans une église. Et puis, ça a pris l'ampleur. La multinationale que vous connaissez, c'est le plus grand lobby à Bruxelles. Hein. Les gens ici à Charleroi, quand ils entendent lobby, tout de suite ils pensent qu'il y a des grands milliardaires avec de l'argent. Le plus grand lobby à la Commission européenne, plutôt à l'Union européenne, c'est Greenpeace. Et Patrick Moore, un jour, s'est rendu compte que ça n'avait plus rien à voir avec ce qui s'était passé dans le sous-sol de l'église de Vancouver. Et il a quitté Greenpeace. Et depuis lors, il a beaucoup d'ennuis. On a même enlevé sur le site de Greenpeace le fait qu'il était un des fondateurs. Mais bon, il a la preuve, il y avait plein de photos de l'époque, et vous le voyez ici. Hein, et voilà. Pour vous dire qu'on est parti avec la religion dans ce domaine. Je répète qu'il faut éviter de polluer. Hein. Je ne voudrais pas dire que j'ai dit qu'il faut polluer. Hein. D'accord ? L'autre rengaine qu'on entend, c'est que tout va mal. Vous entendez la radio, mais tout va mal, la pollution augmente, tout augmente, on est de plus en plus dans un monde pollué, il n'y a rien de bon. Je vous présente mon parterre de fraisiers. Rien que pour nettoyer ce morceau-là, j'ai rempli cette brouette de mauvais air. Parce que contrairement à ce que vous pensez, la nature n'est pas bonne. La nature est envahissante. La nature est destructrice. Et c'est pour ça que Dieu a demandé à l'homme de contrôler la terre. Sinon, il n'y a plus rien. La terre, au début, était une immense forêt. Il a fallu dominer tout cela pour avoir ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est mieux qu'avant, parce que sinon, il n'y aurait plus rien. Et donc, tous ces malheurs, RG le disait déjà, il n'y a rien de nouveau. Vous allez payer les pénitences parce que vous avez pollué, vous détruisez. On ne détruit rien du tout. Ceci, c'est ce qu'on appelle la courbe de Kuznets. C'est un économiste qui a expliqué que dans un système, au début, on crée des problèmes. Moi, j'ai grandi à Charleroi, je vous assure que j'ai vu la pollution qu'il y avait à Charleroi dans les années 60. Il y avait de la pollution de ma fenêtre, je voyais les fumées qui sortaient des hauts fourneaux de la Providence. C'était dégoûtant. À l'époque, personne ne sortait de la terre. Et donc, on était là, vous voyez la pollution augmenter. Et puis, tout d'un coup, on se dit, ben non, on ne peut pas continuer comme ça. Et ça, c'était arrivé vers les années 70. Et on a dit, non, on doit éviter la pollution. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué la pollution. Aujourd'hui, on a énormément de techniques pour éviter la pollution. Aujourd'hui, on vit mieux à Charleroi qu'en 1960. La qualité de vie à Charleroi, aujourd'hui, est mieux qu'en 1960. Et bien mieux qu'avant, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'on a mis au point des techniques d'amélioration. L'eau avant était polluée, aujourd'hui elle est propre, on n'a pas de vérifier. L'air aujourd'hui est plus respirable que dans le temps, pas simplement parce qu'on a fini de fermer des usines, parce que les voitures polluent moins qu'avant. Ce qui est intéressant, c'est que dans les pays africains, qui sont tellement en retard par rapport à nous, bien ce phénomène va s'appliquer aussi, mais eux ils vont profiter de notre technologie. Ils partent beaucoup plus tard, et donc ils ne sont pas dans ce système de pollution qu'on a eu dans les années 60. Donc, quand quelqu'un vient vous dire « Oui, mais on ne peut pas laisser les Africains se développer comme nous », mais c'est farfelu de dire ça. Aujourd'hui, les centrales au charbon les plus propres du monde, la meilleure technologie du monde, vous savez où est-ce qu'on les achète? Et ils les vendent comme des petits pains. En Chine. Pourquoi? Parce qu'ils construisent des centrales toutes les semaines, il y a une nouvelle centrale au charbon. Donc, ils développent des nouvelles technologies. Et ils vendent des centrales au charbon dans le monde. Propres. Plus comme celles qu'on avait à Charleroi en France, par construction. Voici par exemple la courbe en vert, le nombre de pauvres dans le monde. C'est pas moi, ce sont les chiffres des Nations Unies. Et en bleu, le pourcentage. Avec l'axe de droite. Il y a de moins en moins de pauvres dans le monde. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on agit. Les Nations Unies, les États, les pays se développent, ils font le nécessaire, il y a de moins en moins de pauvres. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est pas idéal. Mais ça va mieux. Ça, ce sont des graphiques de ma vie professionnelle. Moi, j'étais à la base de ça. La pollution par les émissions de NOx et de SO2 dans les voitures, et ça c'est dans les camions. Et comme vous voyez, ça chute. On pollue de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on oblige par des directives de faire attention. On développe des technologies. On vit aujourd'hui dans un monde moins pollué qu'hier. Ça c'est un graphique qui n'est pas dans le livre. Je l'ai fait cette semaine-ci. On ne peut pas tout faire en même temps. Vous avez ici un graphique, c'est fait avec des données des Nations Unies. Hein. Ça prend beaucoup de temps pour faire ce travail. Les émissions de CO2 par habitant. Et ici, l'espérance de vie. Et comme vous voyez, on a un point, une courbe qui fait comme ça. Ça veut dire que, ça c'est le Niger. Quand on produit peu de CO2, on meurt jeune. Je répète, les gens qui produisent peu de CO2 meurent jeunes. Et plus on produit de CO2, plus l'espérance de vie augmente. Et vous voyez qu'il ne faut pas beaucoup. La Belgique est là, le point rouge. On a la chance de vivre en moyenne 83 ans en Belgique. Pourquoi? Parce qu'on consomme plus de CO2, on produit plus de CO2 que les pays africains et les pays pauvres. Quand on vous dit qu'il faut diminuer les émissions de CO2, en fait, on vous dit qu'il faut aller vers la gauche de ce graphique et donc mourir plus jeune. C'est ce qu'ils veulent. Pour sauver la planète, il faut moins de gens. Il y a tout un chapitre dans mon livre là-dessus. Il y a même Yves Crochet, le député écolo français, qui dit on doit interdire de faire des enfants en Europe et importer des enfants d'Afrique. C'est ça qu'ils veulent, c'est diminuer la fécondité pour faire moins d'enfants, pour sauver la planète. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller comme ces pays-là. Vous devinez qui c'est là? C'est les pays du Golfe. Le Qatar, Dubaï, l'Arabie Saoudite, eux, l'énergie ne la paye pas, donc ils gaspillent. On peut même skier à Dubaï. Skier sur la neige, hein. Pas avec des roulettes. À Dubaï, il y a un dôme refroidi. On peut skier. Ben oui, tout ça, forcément, fait qu'on y met beaucoup de CO2, mais ils ne visent pas plus vieux pour ça. Je vous présente mon petit-fils. C'est pas lui que je voulais vous montrer, mais en fait, je voulais vous montrer une plage. Ici, il est en Bretagne chez ta grand-mère. Et comme vous voyez, il n'y a pas de plastique sur cette plage. Par contre, son papa, qui est le responsable, le responsable européen du recyclage du plastique, m'a ramené cette photo d'Indonésie. Et vous voyez tout le plastique qu'il y a là. On n'arrête pas de nous culpabiliser sur le plastique. Qui d'entre vous a déjà pris le train pour aller à Houston jeter du plastique dans la mer? Et maintenant, on nous interdit d'avoir des pailles en plastique parce qu'on va détruire la planète. 360 millions de tonnes de plastique sont produits par an. Ça vient de ton cœur avec le plastique. Tu peux baisser le son là pour la tu l'as déjà fait. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec les plastiques en Europe. On ne les jette pas dans la mer. Tout ce que vous mettez dans la récolte du plastique, ça finit dans des usines de recyclage. Et voici ce qui se passe. C'est une vidéo qui au début va vite, c'est la vitesse naturelle, et puis on ralentit pour bien voir de quoi il s'agit. Sinon ça va tellement vite que vous n'allez pas vous en rendre compte. Du plastique en Europe. Pourquoi? Parce que ça, c'est de la matière première, ça vaut de l'argent. Et donc, depuis des années et des années, il y a des industriels qui achètent le plastique. Les déchets de plastique, pourquoi? Parce qu'ils gagnent de leur vie. C'est un produit, c'est pas un déchet. On peut le réutiliser. Et donc, on est en train de culpabiliser tout un peuple. 500 millions d'habitants sur le plastique alors qu'on est en train de faire le nécessaire pour ne pas polluer. Vous avez vu qu'il y avait une bande jaune là? Et ici on la voit un peu là. Ça c'est un laser qui détecte quel type de plastique c'est. Et en fonction du type de plastique, l'aspiration se fait à un endroit précis. Et on sépare les plastiques en différents types de plastique. Et on gagne de l'argent. Donc, c'est pas simplement pour sauver la planète, c'est parce que c'est du business, et grâce à ça, ben, on ne pollue pas. Oui. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, vous voyez, j'avance, hein, c'est la peur qui, en fait, est là pour nous donner une culpabilisation pour revenir à ce que je vous disais au début, avec le soviétisme. C'est ça qui est derrière ça. On veut nous faire vivre comme c'était bien en Union soviétique pour avoir l'égalité entre nous. Et donc, derrière tout cela, il y a vraiment une vision anticapitaliste. C'est pour ça que tous les partis écolos sont des partis de gauche. Je ne veux pas faire de politique, mais c'est une évidence. Voici ce qu'a disait une ancienne ministre du Canada, ministre de l'Environnement. Peu importe si la science est complètement bidon, car il y a des avantages environnementaux collatéraux, le changement climatique fournit la plus grande chance pour davantage de justice et d'égalité dans le monde. Le changement climatique, ça sert à l'égalité dans le monde, à vous interdire, vous, de consommer pour que les autres puissent consommer en Afrique. Quand M. Magnette, je n'ai pas peur de le dire, quand M. Magnette était ministre du thermostat, quand il pouvait régler la température de la Belgique, quand il y a eu la conférence de Copenhague, il était là, et il a dit la même chose avec d'autres mots. De toute façon, la politique du changement climatique, c'est bien parce que ça va favoriser la justice sociale. Ben oui, d'accord, mais alors ne venez pas dire que vous avez des scientifiques qui vous disent que la température augmente. Un autre qui ne cache pas que tout cela est du socialisme, le président Evo Morales. Le changement climatique est provoqué par le capitalisme, a-t-il dit à la conférence de Copenhague. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec la science. Hein. Et je vous signale, je ne sais pas si j'ai la photo plus loin, je l'ai dit maintenant. Vous voyez qu'il y a des lamas. Non, je le dis plus loin, pardon. Ça, je passe. Ça, je passe parce que je vous l'ai déjà dit. Un moment de détente. Je peux avoir un peu d'eau. C'est pas parce qu'ils sont nombreux dans la rue ou dans les médias qu'ils ont raison. Hein. C'est Coluche qui disait ça. Depuis quand, parce qu'on est nombreux, on détient la science infuse. Merci. Je répète pour la troisième fois, ne venez pas dire que j'ai dit qu'il faut polluer. Hein. Ah non, mais il faut se prémunir avec certains. Hein. Non seulement c'est une vision anticapitaliste, après tout, pourquoi pas, mais c'est surtout une vision antichrétienne. Et là, on arrive dans le cœur du sujet, avec le retour du paganisme. Si tout va mal dans le monde, c'est à cause du christianisme. C'est pas moi qui le dis, bien entendu. Genèse 1, 28, 26 nous dit « Faisons l'homme pour qu'il soit à notre image, ceux qui nous ressemblent, etc. » Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître. » Ça, c'est l'ordre que Dieu donne à l'être humain. Quand il dit « Soyez féconds », ça veut dire qu'on voit des enfants, il y aura un développement démographique. Forcément. Et avec quoi on va manger si on est plus nombreux? Si on est 1 milliard, est-ce qu'on va manger comme si on était 1 million? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir la terre et rendez-vous en maître. Il faut dominer la nature. C'est l'ordre de Dieu. Pour qu'on puisse multiplier, c'est lui qui l'a dit, pour qu'on puisse multiplier, mais il faut dominer la nature. Sinon, vous allez vous retrouver avec les mauvaises herbes que je vous ai montrées tout à l'heure. L'Europe était une forêt. Et au fur et à mesure que la population a augmenté, on a défriché. Et on a coupé des bois. Je suis né... Non, je ne suis pas né. J'ai grandi à la rue Sarre-les-Moulins. Et j'ai été à l'école de Sarre-les-Moulins. Vous savez ce que veut dire Sarre? Il y a Sarre-Eustache, Sarre-la-Buissière. Il y en a beaucoup des Sarres. Vous savez ce que c'est un Sarre? S-A-R-T. En France, c'est Sarre, on met un E devant. C'est un endroit défriché. C'était boisé, on a coupé des bois pour faire à manger pour les gens. On ne peut pas le faire au Brésil. Hein. Bolsonaro, c'est un salico. Ils coupent des bois pour donner à manger et faire développer la production agricole pour les Chinois. On ne peut pas faire ça. Mais on a fait ça, nous, pendant 2000 ans. Et est-ce qu'on vit mal aujourd'hui? Est-ce qu'on vit plus mal aujourd'hui qu'au Moyen-Âge? On mourait comme les mouches? Donc, Dieu nous demande de dominer la terre pour pouvoir obéir à son commandement de croissance et de se multiplier. Oui, tout va mal à cause des chrétiens. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un historien qui s'appelle Lynn White qui a écrit dans un journal scientifique prestigieux qui s'appelle Science en 1967. Vous voyez les hippies quand je vous disais tout à l'heure que tout ça est parti avec les hippies. Et il a écrit un article « Les racines historiques de notre crise écologique » 1967. Il y a donc des racines à cela. Et qu'est-ce qu'il écrit ce brave homme? Nous continuerons à avoir une crise écologique qui empire jusqu'au moment où nous rejetterons l'axiome chrétien que la nature n'a pas d'autre raison d'exister que de servir l'homme. Tant notre science que notre technologie actuelle sont tellement imbues d'arrogance chrétienne envers la nature qu'aucune solution à notre crise écologique, en 67 il n'y avait pas de crise écologique. En 67, il n'y avait pas de crise. On ne parlait pas de crise écologique, on parlait. Ne peut pas être entendu de seul. Puisque les racines de nos problèmes sont si largement religieuses, à cause de Genèse 1, le remède doit également être essentiellement religieux, que nous l'appelions ainsi. Si tout va mal dans le monde, c'est à cause de Genèse 1, que Dieu demande à l'homme de se multiplier. Et donc, il faut arrêter le christianisme et ainsi on pourra arrêter le développement démographique de la population. C'est une attaque en règle contre le christianisme. Voici un autre penseur norvégien, cette fois, Arne Naas, qui est connu dans le milieu écolo. La sagesse de Dieu, donc le Dieu des chrétiens, la sagesse de Dieu est ridiculisée parce qu'il a engagé une créature aussi ignorante et si ignoble que l'homme sapiens, c'est-à-dire nous, pour administrer et garder cette vaste nature à laquelle on pense. Dieu est ridicule puisqu'il demande à l'homme de gérer la nature. Et Pierre Rabhi, qu'on voit régulièrement à la télévision française, la Bible, entre autres, porte la responsabilité très grave d'avoir favorisé et même stimulé l'attitude dominatrice et despotique de l'homme vis-à-vis des autres chrétiens. C'est ça les bases de l'environnementalisme. Vous savez, les gens qui votent écolo dans votre rue, ils ne savent pas ça. Hein. Ils ignorent tout ça, ils sont de bonne volonté. On leur dit, ah oui, on ne doit pas polluer. Ben oui, on ne doit pas polluer. Donc, mais derrière, il y a un piège énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans un monde judéo-chrétien. Les juifs et les chrétiens ont la même valeur pour la Bible, pour envers la nature. Dieu nous donne, aux juifs et aux chrétiens, l'ordre de devenir féconds et de multiplier. Il faut donc de la croissance. La croissance économique est la conséquence de l'ordre de Dieu. Si on est plus nombreux, on doit travailler, il faut plus de travail. Pour que tout le monde puisse travailler et manger et vivre. Et ça, ça conduit, selon eux, au désastre écologique. Aujourd'hui, on est dans un système inverse. Dieu n'existe plus. Il faut sauver la nature. Et donc, il faut faire de la décroissance. Voilà le terme. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est arrêter de vous développer. Puisque si vous vous développez, vous allez polluer et détruire la planète. En fait, ce qu'il faut faire, c'est désobéir à Dieu. C'est ça l'objectif de tout cela. Oui, ça j'ai déjà pas. Yves Cossier, je vous l'avais dit, là je passe. Oui. Ça, c'est les lamas du président Morales. Il sacrifie des lamas. Ah ben oui, c'est pas un chrétien, Morales. C'est un Indien des Andes. Et donc, il offre des lamas à son Dieu. Comment s'appelle son Dieu? Pachamama. Et voilà, c'est leur religion. Pourquoi pas? Je vais passer. Seulement, il est parvenu à imposer sa religion au monde entier. Vous avez ici un texte officiel des Nations Unies, où vous voyez que son nom est là, Evo Morales. Il a imposé par acclamation, tous les États du monde ont applaudi. Est-ce que vous êtes d'accord que l'on a applaudi? Acclamation. On n'a même pas besoin de Vietnam. Qu'est-ce qu'ils ont accepté? Que le 22 avril est la journée internationale de la Mère Terre. Le 22 avril, le monde entier doit adorer Pachamama. Bon, on n'est pas encore obligé. Ça va vite devenir. C'est tellement important ce 22 avril que dans l'accord de Paris, le fameux accord de Paris, il fallait commencer la ratification le jour de la Mère Dieu de Terre. Dans un texte officiel de l'accord de Paris, on parle de la Pachamama. On ne parle pas du Dieu des chrétiens. On parle du Dieu païen. On est en plein retour dans le paganisme. Que s'est-il passé dans notre Europe? Il y avait en Europe le paganisme. Du temps des Romains, vous le savez, des Gaulois, c'était le paganisme qui régnait. L'évangélisation, qui a commencé avec Saint Paul en Europe, a conduit au christianisme. Et l'Europe s'est développée avec le christianisme. Malheureusement, un peu avec les. Puis il y a eu les Lumières, je retire le malheureusement, c'est plus tard, je dis malheureusement. Les Lumières, c'était des gens qui pensaient que l'homme n'a pas besoin de Dieu pour s'épanouir. Mais l'homme est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on appelle l'humanisme, ce qu'on appelle les Lumières qui se sont développées, surtout en Europe du Nord. En France, jusqu'en France, Angleterre. Et donc ça a conduit à l'humanisme. C'est un peu ce qui s'est passé en Belgique avec le Parti Social Chrétien, qui est devenu le Parti des Centres Humanistes. Et puis, cela a conduit au matérialisme. On est devenu de plus en plus riche, on n'avait plus besoin de Dieu. Les luttes sociales sont venues. Et on est arrivé à un désenchantement du monde. On a abandonné Dieu, on a éliminé Dieu de notre sphère. Et les gens, il n'y a rien à faire, sont religieux. L'anthropologue René Girard a bien montré cela. Dans toutes les tribus du monde, il y a toujours cette notion d'un Dieu. Et l'homme a besoin d'un Dieu. Et comme il avait abandonné le christianisme, il y a eu un désenchantement, c'est le terme technique, hein, qui a conduit à l'écologisme, à l'environnementalisme, et aujourd'hui à réenchanter le monde. On revient avec une nouvelle religion. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais tout ça est bien entendu très sournois. J'ai un document de la Commission européenne du temps de Jacques Delors qui explique tout ça. J'en parle dans le livre, en détail. Oui, je ne savais pas que j'allais vous dire ça. L'arbre redevient sacré, ça je l'ai déjà dit. Peut-être que vous vous souvenez de Boutros Ghali, qui était l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Voici ce qu'il a déclaré à la clôture de la conférence sur le climat en 1992, juin 1992, à Rio de Janeiro, ce qu'on appelle le sommet de la Terre. Vous êtes assis, hein? Un document officiel des Nations Unies. Après avoir aimé son prochain, vous voyez comme il y a des termes religieux, aimer son prochain. Après avoir aimé son prochain, comme le lui demandait l'Évangile, l'homme d'après Rio, nous aujourd'hui, doit aussi aimer le monde, y compris les fleurs, les oiseaux, les arbres, tout cet environnement naturel que nous détruisons régulièrement. C'est pas vrai, on détruit rien du tout. au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu. Tiens, on doit faire au-delà et au-dessus du contrat avec Dieu. On avait un contrat avec Dieu, multiplier, dominer la terre. Maintenant, on doit dépasser cela. Au-delà, au-dessus du contrat moral avec Dieu, au-delà, au-dessus du contrat social conclu avec les hommes, le développement social, il faut maintenant conclure un contrat éthique et politique avec la nature. Vous allez devoir signer pour la nature. Avec cette terre à qui nous devons notre existence, ça c'est vrai, et qui nous fait vivre, ça c'est vrai. Pour les anciens, le Nil était un dieu qu'on vénère. De même, le Rhin, source infinie de mythes européens. Alors, c'est joli, hein. Quelle poésie. Ou la forêt amazonienne, la mer des forêts. Partout dans le monde, la nature était la demeure des divinités. Celles-ci ont conféré à la forêt, au désert, à la montagne, une personnalité qui imposait adoration et respect. La terre avait une âme. La retrouver, la ressusciter, telle est l'essence de vivre. Quand on vous parle de changement climatique, c'est parce qu'il faut donner une âme à la terre. Parce qu'il y a un contrat supérieur au contrat de l'Évangile. Que les païens le fassent, ça ne m'intéresse pas. 1 Corinthiens 5, suis-je là pour juger les gens de l'extérieur ? Dieu les jugera, dit saint Paul. Mais chassez le méchant du milieu de vous, dit-il. 1 Corinthiens 5. Comment est-ce possible d'être chrétien et de croire des choses pareilles ? Que les païens le croient, c'est leur droit. Et on ne peut pas leur interdire. On ne doit pas leur interdire. Mais un chrétien ne peut pas être chrétien et accepter des choses pareilles. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Avant, il y avait la vision judéo-chrétienne du monde, avec Dieu, l'homme et la nature. Dieu, l'homme et la nature. Dieu est au-dessus de l'homme et l'homme au-dessus de la nature. Ça, c'est le message chrétien. Puis est arrivé le siècle des Lumières, on élimine Dieu, mais il y a toujours l'homme qui doit éliminer la nature. Et aujourd'hui, on retourne au paganisme, ou Gaïa, ou Pachamama, ou l'appelez-la comme vous la voulez, ou la petite fleur, où le nuage est plus important que l'homme. Je vous présente Abraham Kuyper, et on a ici notre pasteur de Liège que Élisée a présenté tout à l'heure, qui est hollandais, et donc il sait très bien, il m'a déjà beaucoup parlé de cet homme. C'était le premier ministre des Pays-Bas, mais il était pasteur aussi, c'était une autre époque. On pouvait être pasteur et premier ministre. Et voici ce qu'il a écrit. Enfin, il a écrit beaucoup de choses, bien entendu. Mais il a écrit quelque chose qui est tout à fait d'actualité, que j'ai mis à la première page de mon livre. N'oublions pas que le contraste fondamental a toujours été, et toujours, et sera jusqu'à la fin, le christianisme ou le paganisme, les idoles ou le Dieu vivant. En 1898. Il y a 121 ans. Un grand théologien a dit à 121 ans, vous cassez pas la tête, hein, ou c'est le christianisme ou c'est le paganisme. Ça a toujours été comme ça et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Mais c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il connaissait sa Bible, ce brave homme. Et donc, vous, mes amis, vous devez choisir. Ou vous êtes avec les païens, ou vous êtes avec le Dieu de la Bible. Jean Calvin aussi a écrit cette phrase extraordinaire. L'esprit de l'homme est une petite virtuelle et de tout temps pour forger des idoles. C'est notre faiblesse en tant qu'homme. On a besoin d'idoles. Regardez l'Ancien Testament combien de fois le peuple est repris par Dieu à cause de l'idolâtrie. Aujourd'hui, on est en train d'adorer la terre. Et supprimer les valeurs de l'homme. On préfère tuer des enfants plutôt que de couper des arbres. Et puis il y a la viande, évidemment, bon, je vais passer parce qu'il se fait tard, on vous interdit de manger de la viande. 1 Timothée 4.3. Ces gens-là interdiront le mariage, Ça vous dit quelque chose? Exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour que les croyants, ceux qui connaissent la vérité, en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon, bien est à rejeter pourvu que l'homme le revestit Dieu en prenant. Mangez de la viande, les amis. N'ayez pas peur. Ne vous occupez pas de la vieille Esther. Toute la Bible est remplie de viande. C'est pour ça que Jésus-Christ aussi a donné son corps. C'était un symbole fort. Genèse 8, 21, après le déluge. Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de faire. Aussi longtemps que durera la terre, semail et moisson, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Le climat, il peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas contrôlé par le thermostat du GIEC ou des politiciens. C'est Dieu qui contrôle. Romains 1, 22, 25. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, et ceux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. On est en plein dedans. On adore les fleurs, le fleuve, parce qu'il a une âme, et on abandonne le Créateur. Oui, cette photo pour vous montrer comment on l'avait avant. Ça, c'était la lessive de l'époque. Ma maman a vécu ça. Et vos mamans aussi. Et voici ce que nous dit l'Ecclésiaste. Garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui. Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. Ne tombez pas dans les pièges des écolos. Aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. La Bible nous dit. Et puis on arrive à l'eschatologie, nous chrétiens, nous savons qu'il y a une fin avec le retour de Jésus-Christ. Romains 8, 20. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité depuis la chute. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création, l'homme et la nature, elle-même sera délivrée de la puissance de destruction qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création, l'homme et la nature, tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfant. C'est Christ qui va sauver la planète. Est-ce qu'il faut avoir peur de demain?
Oui.
Un des passages que je préfère dans la Bible, c'est le passage du sacrifice d'Isaac, qui montre la foi extraordinaire de cet homme, qui était Abraham. Il a attendu des années pour avoir un fils. Et puis ce fils grandit, au point que c'est lui qui porte le bois pour l'Holocauste. Ce n'était pas un bébé. Il marchait, il portait du bois. Et Dieu lui dit, tu vas le sacrifier. Cette peinture montre toute la dramacité de cette scène. Avec l'ange qui interdit à Abraham de porter le couteau. Et le bélier qui est pris là, dans les branches, pour servir de l'autre. À ce moment-là, la Bible dit que Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Ah, Jireh, le verbe. Jireh, c'est celui qui pourvoit. Dieu a pourvu. Abraham était prêt à faire le sacrifice. Et Dieu a pourvu. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit. Et s'il pourvoit, il pourvoira demain pour nos enfants. et après-demain pour nos petits-enfants, jusqu'au retour de Christ. Vous pensez que Christ nous manque comme ça, nous lance dans la nature, Dieu nous lance dans la nature, et puis il va dire, bon ben, tant pis, débrouillez-vous. C'est lui qui tient le monde dans la main. Vous vous souvenez de la chanson de Chantal Disset ? Il tient le monde dans sa main. Soyons positifs. N'ayons pas peur de demain. Aujourd'hui, c'était mieux qu'hier, et demain, Dieu pourvoira. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. Il ne changera pas. Je répète une dernière fois qu'il faut éviter la route. Ça date. J'avais fini ma présentation et puis j'ai rajouté ça ce matin. C'est incroyable. Dans une église presbytérienne à Manhattan, on fait pénitence devant des plantes pour leur demander pardon. Oh là là. Dans une église protestante. Bon, qu'est-ce qui reste de protestant là-dedans, je me demande. Oui. L'étudiant du séminaire, d'un séminaire théologique, demande pardon aux plantes. C'était la peine. Voilà. Merci pour votre attention. J'ai écrit ce livre vraiment en essayant de mettre toutes les choses positives que j'ai apprises dans ma vie professionnelle. C'est tellement fantastique ce qui se passe dans le monde, la question énergétique, environnementale. C'est extraordinaire. On est en plein développement positif. Et puis, il ne faut pas que les chrétiens se perdent d'âme, comment on dit, se découragent, merci. Il ne faut pas que les chrétiens se découragent. Dieu contrôle le monde. Il pourvoit. Et aujourd'hui, il nous donne la sagesse pour gérer les crises. Dieu nous donne la sagesse pour gérer toutes les crises qui se présentent devant nous. Il n'y a que dans la nature, ce qui est illimité, c'est le génie de l'homme. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons la capacité créative. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Dieu contrôle le monde à travers notre création, notre créativité. Voilà, merci pour votre attention. Vous avez retenu la chose la plus importante, hein, c'est qu'il ne faut pas polluer. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, déjà deux.
Ben, je suis ni climatologue, ni médecin, ni malade. Concernant le CO2, tu as dit tout à l'heure que c'était, j'ai compris qu'on favorisait la croissance des plantes en ajoutant du CO2 très bien. Tu as tantôt cité que nous générons du CO2. Ma question est pour un spécialiste de la terre. Vous montrez que dans une salle qui est occupée comme ça, nous avons respiré pendant un certain temps. Si l'eau devait nous suivre, on aérerait pour renouveler l'air parce que l'air serait dissimulé. Bon. Autre question. Quand on parle, donc le CO2, première, est-il bon ou pas bon? Et la même question autrement, comment ont-ils réussi à nous faire croire, et est-ce vrai ou faux, que le CO2 qui était inclus dans les gaz à effet de serre, finalement, est-ce qu'il est pour le climat néfaste, ou est-ce qu'il est neutre, ou est-ce qu'il est bon? Donc, nous, en général, excusez-moi, ignorants, en général, nous ne sommes pas spécialistes de ces questions-là. On ne sait plus très bien à quel sens se vouer son jeu de mots, ni que croire, puisque, comme disait Coluche, qui est extraordinaire, ils sont nombreux à mentir, donc il est encore le plus. Mais je prie le CO2 en finant. Au niveau climatique, est-ce qu'il est réellement, est-ce que c'est un gaz qui est réellement néfaste, neutre, presque néfaste, ou bon, suivant l'altitude ou suivant l'usage qu'on en fait? Voilà, c'est vraiment une question d'ignorant, mais c'est pour un peu essayer de y voir clair.
Merci pour cette question. C'est vrai que le taux de CO2 ici est monté. Et ce n'est pas à cause du CO2 que l'air est vicié, c'est aussi parce que nous transpirons et nous émettons aussi autre chose que le CO2. Les odeurs, la transpiration, c'est pas le CO2 qui nous empêche, qui va vicier l'air. La preuve, c'est que dans les sous-marins, on monte à 3000, 4000 ppm. Et les gens vivent tout à fait normalement. J'ai un ami médecin de notre église avec qui m'a posé cette question-là et qui m'a donné toutes sortes d'informations. C'est comme ça que je sais ce qui se passe dans les sous-marins. C'est pas le CO2 qui visse l'air, mais il y a quand même une limitation. On ne peut pas vivre dans du CO2 uniquement, sinon on mourrait. Mais ça n'existe même pas dans un sous-marin. Il aurait une parenthèse à faire sur l'origine de l'oxygène. Quand on a parlé de la forêt amazonienne qui brûle à Bolsonaro, et Macron qui dit que c'est le poumon de l'Amazonie, c'est le poumon de l'oxygène, du monde qui produit 20% d'oxygène, carabistouille. Le CO2 ne vient pas des bois, c'est marginal ce que le CO2 vient de la photosynthèse dans l'atmosphère. Soit. Deuxièmement, ta question est le cœur du débat scientifique. Est-ce que le CO2 vraiment est un gaz à effet de serre? En croire le GIEC, oui. En croire mon professeur de l'ULB, non. C'est de la haute physique. C'est de la haute physique parce que tu te souviens peut-être de l'équation de Stefan Boltzmann. Et dans l'équation de Stefan Boltzmann est une équation qui est valable pour un corps noir. Or, la Terre n'est pas un corps noir. Et toute la théorie du changement climatique part de cette hypothèse qu'on applique la théorie de la radiation avec Stefan Boltzmann. Mais la Terre n'est pas un corps noir. C'est rare les corps noirs d'ailleurs. C'est une théorie. Et à partir de là, beaucoup critiquent cette théorie du changement climatique en disant que c'est pas possible que le CO2 provoque une augmentation de température. Moi, je ne suis pas climatologue, et donc je ne veux pas prendre de position dans ce domaine, parce que c'est extrêmement complexe. Si je prends position, on va me taper des... on va encore me critiquer plus qu'on me critique. Mais j'ai écrit un article au mois de juin avec un grand climatologue belge, André Berger, où on a écrit un article ensemble qui a été publié dans l'Écho, où lui, climatologue, dit « Ben oui, le CO2 a un impact sur le climat. Mais calmez-vous, hein, il n'y a rien, il n'y a pas l'hystérie qu'on doit avoir. » Donc voilà, il peut y avoir quelque chose, mais ce n'est certainement pas aussi fort qu'on le dit. Et de toute façon, c'est un débat extrêmement compliqué et très scientifique. Il y a un article, si ça t'intéresse, je peux te passer les références, dans le journal de science, le journal de physique B, je ne savais pas que ça existait, un journal de physique A et un journal de physique B, où là, dans une quarantaine de pages, d'un grand physicien allemand démontre qu'il n'y en a pas. Mais bon, c'est de la science pure, on rentre dans la science pure, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on dit ici. Mathéo.
Voilà. Donc l'écologie n'est pas compatible avec la démocratie.
Ah oui, c'est eux qui le disent.
Il n'est pas compatible avec la démocratie puisqu'ils veulent asservir les gens.
Ils veulent non seulement asservir les gens, mais imposer.
Imposer.
Quelles sont les techniques de l'écolo? C'est imposer leur vision à une population. La voiture, les chaudières, tout. Voilà. Il faut faire ce qu'ils disent.
Voilà. Et concernant le plastique, il y a quand même une pollution qui se forme. Puisque vous avez montré ici qu'il y avait une machine qui pouvait éventuellement trier tous ces plastiques pour les réutiliser. Mais pour moi, c'est dans la méchanceté des hommes, dans la mauvaise chose des gens, qui déversent ça dans la mer et tout ça, qu'on trouve tous
ces plastiques. C'est une bonne question. Alors, j'aurais dû le dire.
Oui.
Ce qui se passe, c'est que nous, en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés, on a une conscience environnementale. Vous vous souvenez de la courbe que j'ai montrée là? On a passé le sommet, et on est en bas. Donc, nous, on ne pollue plus. C'est pour ça que je vous ai dit, pourquoi on n'a pas pollué. Donc, on ne pollue pas, on ne jette pas de bouteilles. De temps en temps, il y en a encore le long des autoroutes, mais c'est resté marginal et de moins en moins. Et il faut que ça disparaisse complètement. Mais dans les pays pauvres, ils n'ont pas cette conscience, ils sont encore en train de monter. Et pour eux, ils ne savent pas que ça pollue. Et donc, ils jettent ça. J'ai une photo, je crois que je l'ai mise dans le livre. Oui, elle est dans le livre. J'ai une photo qui a été rapportée par le fils de mon frère, Orlando, qui travaille dans l'humanitaire et il a fait un travail sur Belgique, mais il travaille pour une ONG chrétienne, pour les enfants chrétiens. Et il va souvent en Afrique et il me ramène des photos. Et il marche dans un sentier où on voit que c'est un sentier que quand il pleut, l'eau passe. Et ce sentier est rempli de bouteilles de plastique. Quand il y aura une pluie torrentielle, comme il y a toujours dans les Nord d'Afrique, tout ça est balayé où ? Dans le fleuve. Et le fleuve est sinon où ? Dans la mer. C'est pour ça qu'il y a de la pollution. Oui, bien sûr. Quand on vous dit qu'il y a beaucoup de particules dans l'océan, c'est vrai. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas nous. Et donc, on est en train de nous culpabiliser, nous, pour quelque chose qu'on ne fait pas. Quelle est la solution ? Il faut que ces pays se développent.
Oui.
Je vais sortir un livre le mois prochain sur l'urgence d'électrifier l'Afrique. Tant que l'Afrique ne se développera pas, ils continueront à polluer et à venir chez nous. Donc, il faut que l'Europe se l'Afrique se développe. Mais on ne fait rien pour que l'Afrique se développe. Donc, le plastique, c'est une grande manipulation. Où il y a une partie de vérité, mais nous ne sommes pas les coupables. Oui ?
J'aimerais un peu savoir, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'essence qui pollue le plus ou c'est le diesel ?
Ou l'électricité ?
Alors, tu parles d'une voiture de 1960 ou une voiture de 2018 ou une voiture de 2025 ?
10 ans en arrière.
Ah, en 10 ans en arrière, la voiture diesel polluait. Parce que vous vous souvenez des diesels qui crachaient du noir. Et qu'est-ce qu'on a fait ? C'est pas bien de polluer, je vous l'ai dit. C'est pas bien de polluer, il faut éliminer tout ça. Et donc, les entreprises d'automobile, pour être concurrentielles vis-à-vis d'une entreprise qui fait plus d'efforts, ont développé tous des systèmes de dépollution. Et il y a une course sans arrêt. Vous savez que en Europe, les entreprises qui investissent le plus dans la recherche, c'est la pharmacie et l'automobile. Il y a une recherche effrénée dans l'automobile. Pourquoi ? Parce que le marché de l'automobile explose dans le monde entier, et donc il faut vendre des meilleurs produits. Et vendre des meilleurs produits, ça veut dire des moteurs qui ne polluent pas. Et aujourd'hui, les moteurs sont beaucoup plus propres que l'année dernière. Et demain, ils seront encore plus propres, avec les normes Euro 6, Euro 6 Plus, etc. De sorte qu'aujourd'hui, on a mis au point des systèmes qui coupent de 10 fois les émissions autorisées par la législation européenne. Bosch, l'équipementier allemand, a mis au point des systèmes pour descendre à 10 mg de NOx par kilomètre, alors qu'actuellement, c'est 120. Pourquoi ? Parce qu'on fait des progrès pour ne pas polluer. Donc, oui, une voiture diesel d'aujourd'hui pollue moins qu'une voiture essence. Et surtout, elle consomme beaucoup moins. Beaucoup moins.
Elle rapporte moins d'argent.
Et donc, vous le voyez, si vous avez passé d'une voiture diesel à une voiture essence, tant pis pour vous, hein. Ça coûte cher, hein. Puis, j'aurais autre chose à dire là-dessus, mais bon, on va pas ranger, parce que derrière là, ça aussi, il y a une grosse manipulation. J'explique à mes étudiants sur cette histoire. Parce qu'il y a autre chose, ce n'est pas une question de pollution. C'est une question de géopolitique.
Alors, toutes les semaines, ma mère va monter de 10 cm, et puis après on oublie 3 mètres, et puis on dit 6 mètres, la température c'est plus 2, plus 4, plus 7 maintenant. Quelle est la finalité de ces manipulations ? Et qui dit la vérité ?
La vérité, c'est ce qu'on mesure. C'est quelques millimètres par an. Mais depuis toujours.
Oui.
La mer a toujours monté, depuis toujours. C'est pas parce qu'on roule en voiture maintenant que la mer monte. Et elle monte de quelques millimètres.
Mais pourquoi y a-t-il ce désordre dans ce qu'on nous annonce ?
Dans le film d'Al Gore, à un certain moment, pour montrer la température qui augmente, il est monté sur un Clark. Et on voit Al Gore qui monte sur le Clark pour montrer que la température monte. Tout ça, c'est de la propagande. Derrière, il n'y a pas de science, parce que ça, c'est faux. Je vous ai montré les statistiques. Il faut que ça augmente de 3 degrés, c'est vraiment tout ça. Donc, il n'y a pas. tout cela. Il y a une exagération. Pourquoi ? Ben pour imposer ce que je vous dénie. Il y a exagération pour imposer une société anticapitaliste et antichrétienne. Parce que les deux se tiennent. C'est le christianisme qui a développé. Quand je dis qu'anticapitaliste, ce n'est pas le bon terme, je m'excuse. Anti-marché, je dois dire. Parce qu'on n'est pas là pour défendre le capitalisme. On n'est pas là pour défendre des gens qui veulent s'enrichir. La Bible est contre ça. Mais la Bible est pour le marché, c'est-à-dire échanger des produits. Et donc, la société dans laquelle nous sommes est basée sur un échange. C'est une société, ce qu'on appelle une société de marché. Et tout le long, j'ai utilisé capitalisme, je m'excuse, j'aurais dû utiliser marché. Et il y a donc ce binôme marché-christianisme. Et tout ça, ça dérange les païens. Il y a une force derrière tout ça pour nous faire changer rapidement. Rapidement. Parce que demain, la température va augmenter de 7 degrés. On n'a pas le temps à perdre. Vite ! Avant que vous vous rendiez compte que tout ça est faux.
Qu'est-ce que vous pensez quand on dit maintenant qu'on a déjà, au mois d'août, on a déjà consommé toutes les réserves de la
nature ? Ah oui, c'est la blague. Et donc, où est le coffre pour qu'on puisse vivre ?
C'est-à-dire ?
Ben, si on a tout mangé.
Ben c'est ça qu'on dit qu'on mange.
On dit, à partir du 1er août, on a tout mangé. Et de mois d'août au mois de décembre, avec quoi on mange? Il y a un coffre quelque part, on avait mis quelque chose de côté.
Non, mais quand on entend qu'on a du fromage sur des pizzas, que c'est du plastique et tout, des trucs pareils, on mange de la viande, c'est même plus de la viande, c'est du chimique, on ne mange plus naturel. Quoi.
Non, ça c'est pas, ça c'est pas vrai. Vous pouvez manger naturel.
Oui, mais...
Il suffit d'être intelligent, de ne pas manger, de ne pas aller dans des fast-foods et des choses pareilles. Vous pouvez manger, vous faites une pizza à la maison, ça va vous coûter moins cher, elle sera bonne. Mais vous n'allez pas manger du plastique. Donc ça n'a rien à voir avec la société de consommation. La société de consommation, elle veut vous prendre de l'argent et vous vendre de la saloperie. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Comme je vous ai dit qu'il ne faut pas polluer, il ne faut pas tomber dans le piège de la consommation. Ce sont des choses différentes. Cette théorie ne repose sur rien, mais chaque année elle revient, et évidemment les journalistes sont très contents de parler de ça, ça n'a aucun sens. C'est le bon sens même, on vous dit qu'on a épuisé, et alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait la guerre de la faim jusqu'au 31 décembre pour que ça revienne? Ça n'a aucun sens. Mais voilà, ça fait bien de faire peur aux gens. Vous êtes épuisé? Non.
C'est
Frédéric.
Une question sur les limites de la croissance. Donc j'adhère sur l'idée, effectivement, le monde avance à différentes vitesses suivant les civilisations et les continents, mais autant je crois aussi à cette idée-là, autant il faut avouer que dans nos régions, on surconsomme. Et donc la question, c'est est-ce que justement le développement de cette créativité à laquelle je crois beaucoup aussi, est une réponse intelligente pour continuer à tenir ce discours en vue d'améliorer la globalité du monde dans lequel chaque chrétien est acteur.
Ben oui, nous, un ingénieur, depuis toujours, est quelqu'un qui est ingénieux. Pourquoi ? Pour améliorer les systèmes. Ou inventer des nouveaux systèmes. Et si ça a marché jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi demain on devient tout d'un coup idiot. Donc, si nous faisons confiance au génie de l'homme, qu'il soit chrétien ou pas, demain, il y aura des solutions. Dieu pourvoit à nos besoins. Quand le besoin est là, il ne pourvoit pas 10 ans ou un siècle à l'avance. Ça, c'est le piège du développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est que aujourd'hui, nous devons vivre pour que demain, ça aille bien. L'homme n'a jamais vécu comme ça. Il a toujours vécu dans le présent. Et maintenant, on veut nous imposer, nous, des restrictions pour que demain, quelqu'un vive bien. Vous savez qu'on veut même, aujourd'hui, je me suis fâché avec ça, on veut même, aujourd'hui, mettre des taxes sur le carburant, parce que dans 20 ans, ou 50 ans, ou 100 ans, il n'y aura plus de carburant. Et cet argent va servir à dans 20 ans, dans 50 ans. C'est quand même aberrant. C'est vraiment... l'homme n'a jamais vécu comme ça. On a toujours vécu pour résoudre des problèmes quand ils se présentent. Et donc dire qu'on ne peut pas continuer parce que demain il n'y aura pas de solution, c'est contraire à l'histoire de l'humanité. Il y aura des problèmes qui vont se résoudre, comme on a toujours résolu les problèmes.
C'est pour ça que le terme croissance, c'est pas juste, je vais dire simplement, remplir sa cavité de plus en plus.
Ah non, ça c'est surconsommé.
Voilà, c'est en termes de qualité de vie, c'est même toutes les questions éthiques et le bien-être général.
C'est ça. Et je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré un graphique qui montrait l'espérance de vie avec la production de CO2, et le même graphique avec ce qu'on appelle le HDI, Human Development Index. C'est un index des Nations Unies qui prend en compte l'ensemble de la qualité de la vie. Pas uniquement l'espérance de vie, mais également l'éducation, la santé, etc. Et on a la même courbe que celle que je vous ai montrée. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, il ne s'agit pas de faire de la surconsommation, il ne s'agit pas de gaspiller notre argent à manger et boire. Mangeons et buvons quand demain nous mourrons. Ben non, c'est pas ça. C'est simplement respecter les autres qui peuvent croire et nous faire de notre mieux pour le prochain. Ça n'enlève rien à l'obligation du chrétien d'aider son prochain, de faire quelque chose pour lui, mais pas pour dans 50 ans. C'est aujourd'hui qu'on doit faire du bien, pas dans 50 ans. Et l'autre chose que je veux dire là-dessus, c'est que les ressources... Ça, j'explique beaucoup ça dans mes conférences sur l'énergie. La notion de réserve et de ressources sont deux notions tout à fait distinctes. Et le monde est rempli de ressources, pas de réserves. Et les ressources dépendent du génie de l'homme pour transformer cette ressource en réserve économique. Mais c'est une autre question. Mais ça montre que la Terre est remplie de ressources. On connaît un tout petit peu de ces ressources. Elle est tellement vaste, la Terre. Et donc, on ne doit pas dire aujourd'hui, il n'y a plus rien. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle lorsqu'on m'a dit qu'il n'y avait plus de pétrole. Quand j'ai fait mon doctorat dans un domaine de transformation pour produire du pétrole, on m'a enseigné, c'était en 1980, on m'a enseigné qu'en l'an 2000, il n'y avait plus de pétrole. 20 ans de réserve. Aujourd'hui, à mes étudiants, 20 ans après la fin prévue, il y a 50 ans peut-être. Voilà, c'est encore une grosse erreur qu'on a mis dans la tête des gens. Ça ne va pas, avant c'était mieux, on pollue, il n'y a plus de ressources. Tout ça est faux.
Je reviens avec ma question que j'ai posée à une précédente conférence.
Ah, j'ai pas le temps de regarder.
Non, mais c'est pas une question.
Je me souviens.
Tout ce que l'on vient d'entendre est typiquement valable pour le peuple d'Israël qui a retourné dans sa terre et qui a fait reverdir le désert et qui exporte des fruits et légumes partout, alors qu'il était voué à l'échec. Ça confirme toute la conférence d'aujourd'hui. La croissance d'Israël nourrit le monde. Technologie, agriculture,
eau.
Eau aussi.
Ça, c'est encore une grande carabistouille, l'histoire de l'eau. Est-ce qu'il y a des enseignants d'école primaire parmi nous? Ah oui, Frédéric et Cathy. Est-ce que dans le programme à l'école des Perles, il n'y a pas le cycle de l'eau? Tous les enfants apprennent que dans la nature, il y a un cycle de l'eau. Et que l'eau, elle revient. Et on n'arrête pas de nous dire qu'il y a de moins en moins d'eau. Depuis que le monde existe, entre chrétiens, on peut dire que depuis que Dieu a créé le monde, on a perdu de l'eau. L'urine des astronautes. C'est la seule eau qui a disparu. Depuis Genèse 1, la seule eau qui a disparu, c'est l'urine des astronautes. Les enfants le savent, mais nous, on l'oublie. Et on a peur qu'il n'y a plus d'eau. Oui, Israël est un exemple. Israël est un exemple où le désert refleurit. C'est incroyable, Israël, le désert refleurit. J'organise un voyage en Israël avec le KKL en mars. Et on va aller planter des arbres. Le KKL est une organisation qui est plus vieille que l'État d'Israël. Elle a été créée au début du XXe siècle, 1900. Ils ont fait revertir le pays. Parce qu'il y a le génie humain et la volonté de faire puis la prophétie biblique. Et donc tout ça est en train de se développer. Ben oui, le désert refleurit. C'est magnifique. Et avec le génie de l'homme. Oui, et je termine aussi là-dessus. Si vous allez à Tel Aviv, vous vous demandez ce que vous êtes. Hein. C'est une ville d'une modernité incroyable. Avec des spin-offs, vous utilisez Waze. Mm-hmm. J'ai visité une entreprise là-bas qui prépare les prochaines générations de recherche, mais vraiment loin. Tout ça est financé par des grands groupes industriels du monde entier, du secteur automobile notamment et des transports. Grandes compagnies aériennes, grands constructeurs d'automobiles qui financent cette spin-off pour préparer des choses que je ne connais pas encore. C'est impressionnant. Le génie de l'homme. Oui, madame. Mettez-vous debout parce que je n'entends pas bien.
Pourquoi vous leur dites que Venise plus tard sera sur l'eau dans quelques années?
Que le
Venise.
Ah, parce que il n'y a rien qui sera noyé. C'est de nouveau, là, les 7 degrés. Tout ça, c'est toujours. L'eau monte de 1 ou 2 mm par an. Pas plus. Pour l'instant. Et puis, ça peut peut-être diminuer. Pourquoi toujours croire que demain, c'est plus mauvais? Alors que dans l'histoire de l'humanité, il y a des changements qui sont bons aussi. La catastrophe n'est pas obligatoire. Il peut y avoir des bonnes choses aussi. Il ne peut pas y avoir que des catastrophes. On va rester là. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. J'essaie de répondre.
Merci à vous.
Bonne soirée et merci pour votre participation.